quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse inappropriés.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place. Non.
C'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes, l'émission sur les luttes paysannes et l'agriculture. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'identification. Plus particulièrement d'identification électronique des animaux dans l'élevage. On va parler de ça parce que depuis juillet 2010, en plus, donc ça fait très longtemps qu'il y a des systèmes d'identification et de contrôle divers et variés sur les élevages. Et depuis juillet 2010, les agneaux et les cabris sont obligés d'être identifiés non pas juste avec des boucles d'oreilles ou d'autres systèmes, mais en plus avec une boucle d'oreille qui contient une puce RFID, donc une puce à radiofréquence. Donc c'est dans une boucle et pas sous la peau comme dans d'autres cas pour les chevaux ou dans d'autres pays. Mais voilà, c'est un nouveau contrôle de plus et c'est facultatif pour l'instant pour les bovins, donc pour les vaches, mais ça va venir aussi. Donc on va parler de ça un peu aujourd'hui, ce sera un peu monotone parce qu'il n'y a que moi qui parle, mais on va lire un peu des textes de collectifs d'éleveurs et d'éleveuses qui refusent cette identification. Donc on va déjà voir ce que c'est un peu, ce que ça ajoute comme étape de parler d'identification électronique, ce que ça rajoute comme contrainte pour les paysannes et les paysans. Et puis après, on écoutera justement ces témoignages et puis on donnera aussi quelques petites références sur le sujet. Et pour finir, on fera un petit agenda, on parlera un peu d'autres choses que d'identification et on écoutera un peu de musique. Voilà, c'est parti. On va commencer par voir un peu ce que c'est que l'identification.
L'identification des animaux dans l'élevage, donc c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies déjà sous différentes façons, par des tatouages au début, puis ça dépend un peu aussi des espèces et des pays. Mais donc en France, il y a eu des tatouages, des boucles. Maintenant, pour certaines espèces, c'est deux boucles d'oreilles et avec des numéros d'identification. Ces numéros, en fait, ils comprennent des repères de la ferme où les bêtes sont élevées, du département, de la commune et des choses comme ça. Donc en gros, ça a été créé pour une certaine traçabilité. Mais notamment pour les circuits de transformation et de distribution. Pour des questions de marché noir, en fait, tous les animaux sont identifiés et les éleveurs doivent tenir un registre. Et donc, officiellement, tous les animaux doivent passer par ce circuit-là et donc sont contrôlables. Et aussi pour des questions sanitaires, l'argument c'est que s'il y a un problème sanitaire à un moment donné de la chaîne alimentaire, on peut remonter jusqu'à la source, jusqu'à l'élevage d'où vient l'animal. Et du coup, depuis quelques années, ça a été avancé l'argument de passer à une identification électronique, donc à l'aide de puces RFID. Donc RFID, c'est l'identification par radiofréquence. Donc c'est les petites puces qu'il y a dans les cartes TCLI, dans les passes Navigo, dans les forfaits de ski à distance, dans certaines cartes scolaires. Donc voilà, ça s'immisce de plus en plus dans la société, dans certaines maternités aussi maintenant. Il y a des bracelets électroniques de ce type qui sont placés sur les nourrissons. Donc dans l'élevage, en fait, ça fait depuis 2006 que les chevaux sont identifiés de manière électronique. Et donc, comme on le disait au début, depuis quelque temps, tous les ovins et caprins, donc agneaux et chevreaux nés après juillet 2010, doivent avoir deux boucles, donc une boucle traditionnelle et une boucle d'oreille, donc qui contient une puce RFID à l'intérieur. Et d'ici 2013, c'est tous les animaux, tous les ovins et caprins élevés qui devront avoir cette identification là. Pour les vaches et bœufs, pour l'instant, c'est facultatif, mais voilà, il y a l'administration et les filières font une grande promotion de ce système là qui serait plus simple pour les éleveurs. Donc justement, les arguments avancés pour passer à cette identification, on va les énoncer un petit peu et puis on verra après ce qu'on peut y répondre. Est-ce que les éleveurs et les éleveuses qui refusent cette identification y répondent? Mais donc les arguments avancés, c'est que ce serait d'une part plus simple pour les éleveurs parce qu'ils pourraient gérer leur troupeau par logiciel. Donc notamment quand ils ont un nombre d'animaux trop important, qu'ils peuvent pas les reconnaître, eh ben on peut gérer grâce à des portiques et des lecteurs de ces puces, gérer les rations alimentaires des animaux, gérer, donc il y a des exemples qui font assez sourire, comme gérer la charge de pâture, donc c'est la pression de pâture, donc c'est combien il y a d'animaux en même temps sur une journée, sur une parcelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des portiques à l'entrée de ces parcelles et de pouvoir tracer en temps réel combien on a de brebis qui sont à tel endroit, combien on a de brebis qui sont à tel endroit, suivant les portiques qu'elles ont passées. Un autre exemple, mais qui a été vraiment présenté comme un objectif possible de ces puces, mais a priori plus par des gens qui connaissent la technologie RFID mais qui connaissent pas vraiment le monde agricole, parce que l'exemple est assez ridicule, c'est que ça permettrait à terme de supprimer les clôtures. Donc c'est un travail important de parquer les champs et de supprimer ces clôtures grâce à des clôtures satellites, enfin ou avec des ondes, et qui permettent de retenir les brebis ou les chèvres à l'intérieur du parc grâce à ces puces. Donc c'est quelque chose qui existe pour les chiens, des chiens qui ont un collier qui peuvent pas dépasser une certaine distance, sinon ça leur envoie une décharge. Mais donc les personnes qui ont proposé ça ont peut-être pas pensé qu'il faudrait à ce moment-là aussi pucer les potentiels prédateurs qui passent le parc dans l'autre sens. Donc bon, ils n'ont pas vraiment avancé là-dessus. Les autres arguments avancés, c'est que ce serait plus fiable pour la fameuse traçabilité. Donc on pourrait permettre avec un simple lecteur de retrouver toutes les informations sur la bête immédiatement. Donc sa parenté génétique, les élevages par lesquels elle est passée, toutes les questions sanitaires, ses vaccins, ces choses comme ça, les retrouver immédiatement par lecture informatique. Et puis bien sûr un argument de modernité, que forcément une technologie plus moderne, elle est plus sûre, parce que plus technologique. Donc ça c'est encore à vérifier, mais voilà, c'est un argument qui est avancé aussi. Du coup on va écouter d'abord des témoignages d'éleveurs et d'éleveuses du sud-ouest qui ont écrit des textes pour expliquer pourquoi ils refusaient ce système d'identification. Et on pourra en discuter après plus en détail de quoi répondre aux arguments avancés par l'administration. L'arrivée de la puce électronique dans le troupeau impose la traçabilité et l'informatisation de notre activité. La traçabilité a pour origine le secteur industriel. Elle a été mise au point au début du XXe siècle sur les premières chaînes de production des usines et les premiers supermarchés des États-Unis. La traçabilité est une nécessité de la production et de la consommation de masse. L'identification administrative des bêtes, elle, a débuté en France dans les années 60. Probablement pas, comme on l'entend souvent, pour des raisons sanitaires, mais plutôt pour centraliser dans les mains de l'administration et de la recherche ce que les chercheurs osent appeler l'amélioration des races. Il y a encore 15 ans, la traçabilité était un terme utilisé seulement par les cadres de l'industrie et de la recherche. Aujourd'hui, tout le monde en parle, et de manière positive. Le développement de la filière bio et de la consommation responsable n'est peut-être pas étranger à ce phénomène. Désormais vernie d'une éthique qu'elle n'a jamais eu la prétention d'avoir, la traçabilité est devenue l'un des cache-misères de la production industrielle et de la société qui va avec. Les experts des risques industriels et les gestionnaires des crises sanitaires continuent de mesurer ce qu'ils veulent et de gesticuler dans tous les sens si ça leur chante. Mais qu'ils ne viennent pas nous emmerder. Nous ne voulons pas de leur monde industriel. Ce que l'agriculture industrielle a détruit, empoisonné, nous n'y sommes pour rien. Nous ne sommes pas des producteurs de viande. Nous sommes des éleveurs. Nous vivons avec des bêtes. Leur compagnie nous est indispensable. Nous travaillons avec elles et pour elles. Elles nous reconnaissent, nous font confiance. Elles s'attachent à nous autant que nous à elles. Ce ne sont ni des choses, ni des machines à produire. L'élevage s'exprime avec des gestes de tous les jours, échangés entre les bêtes et nous. Cela ne nous suffit pas qu'elles aient à manger et à boire. On recherche en plus une relation avec elles, quitte à se compliquer la vie, à se torturer l'esprit, quand il faut les soigner, les vendre ou les tuer. Ces gestes, ces habitudes, ces états d'âme, nous les préservons autant que possible de la modélisation et de la folie gestionnaire. Nous avons beaucoup de pouvoir sur la vie des bêtes, mais nous refusons de les plier constamment à notre volonté. Et surtout, nous ne délégons jamais ce pouvoir à une mécanique administrative et scientifique qui réduira les bêtes au rang de minerais et nous-mêmes au rang de simples exécutants. Nous avons les idées suffisamment claires sur l'élevage pour ne pas vouloir être à notre tour domestiqués par les normes et la bureaucratie agricole. Nous ne supportons pas que l'on pense et que l'on fasse les choses à notre place, particulièrement quand les donneurs d'ordre sont impalpables, normes, logiciels, règlements européens. Je refuse de pucer mes brebis. Antoine Brégon. Depuis juillet 2010, je dois mettre à mes agneaux des boucles électroniques, et d'ici l'année 2013, ce sont toutes mes brebis qui seront concernées. Parce que mes brebis ne peuvent pas devenir des machines, il m'est impossible de leur mettre des puces électroniques. J'ai encore plaisir à passer du temps au milieu de mon troupeau, à les observer, les distinguer par leur robe, leur comportement. Ce sont des moments qui donnent sens à ma vie, des moments où les animaux nous apprennent à vivre nous aussi. Le puçage de nos animaux et l'introduction de l'informatique dans notre travail quotidien viennent faire écran aux relations que nous construisons tous les jours avec eux. Cette situation qui nous est imposée est la poursuite de l'industrialisation de l'agriculture. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'essor de la mécanisation aidant, les paysans vont agrandir leur surface pour élever plus de bêtes. Ils ne vont plus travailler avec leurs voisins, mais seuls, et vont se spécialiser. Les quantités qu'ils vont produire augmentent, entraînant la sélection des plants et des races. Certaines vont même disparaître, ou presque. Le savoir est segmenté, parcellisé. Ils deviennent naisseurs, engraisseurs ou céréaliers. La condition des hommes est en rapport avec celle des bêtes. Dans les ateliers d'engraissement, on trouve des animaux qui ont une vie réduite au mètre carré, qu'ils occupent de leur naissance à leur mort. Ces paysans sont devenus des opérateurs sous contrat. Ils ne décident ni de l'alimentation de leurs bêtes, ni des soins à leur donner, ni de leur mort, ni de leur vente, ni de leur prix. Aujourd'hui, le génie génétique accélère le mouvement. La production animale est en voie d'atteindre le stade ultime de son développement. La production de viande in vitro, production biotechnologique de protéines animales. Pour moi, la boucle électronique que nous nous demandent de mettre à nos brebis ne fera que renforcer la filière industrielle. Actuellement, l'administration justifie le puçage par une amélioration de la traçabilité. Or, ceci est une supercherie. Le terme de traçabilité est associé spontanément à qualité et sécurité. Cela n'empêche pourtant pas les crises sanitaires et la mauvaise qualité des produits. C'est surtout de la logique productiviste et des circuits d'échange mondiaux que tout cela provient. L'industrialisation rompt l'équilibre entre les hommes et les bêtes et provoque un déracinement culturel et géographique. Petit à petit, le paysan et ses bêtes perdent tout un savoir-faire, une sensibilité, un imaginaire. Alors que, comme le dit Jocelyne Porcher, depuis les premiers temps des processus domesticatoires, il y a de cela une dizaine de millénaires, les animaux vivent, travaillent et meurent avec nous. Ils ont construit avec nous les sociétés humaines, ils sont constitutifs de notre identité collective et subjective. Nous avons besoin d'eux pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. Par conséquent, je refuse de pucer mes brebis. Martine Chaplot. êtes toujours sur Radio Canu sur le 102.2. On vient de s'écouter le morceau Inertia de Surrender. Et c'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes. On parle d'identification électronique. Et on continue à écouter des lectures de témoignages d'éleveurs et d'éleveuses qui refusent d'identifier électroniquement, de pucer leurs animaux. Les éleveurs d'ovins et caprins se voient obligés de poser une boucle électronique à leurs animaux depuis le 1er juillet 2010. Pour les éleveurs de bovins, dont je suis, les boucles existent et sont disponibles pour ceux qui les désirent. Dernière étape avant de les imposer à tous, des réunions, en énonçant les avantages, commencent à être organisées pour faire accepter aux éleveurs cette nouvelle réglementation. Les deux arguments les plus assénés sont l'amélioration de la traçabilité sanitaire et le confort de travail procuré à l'éleveur. Le puçage n'est pas une identification plus fiable. Les systèmes les plus simples sont les plus sûrs. Le tatouage, par exemple. La technologie revêt l'idée d'inviolabilité pour assurer sur la traçabilité. Cette notion si rabâchée qu'elle se substitue à celle de qualité. La traçabilité, indispensable à l'agro-industrie, est une sécurité illusoire. Car cette même industrie est souvent à l'origine des crises sanitaires, comme la crise de la vache folle. C'est la localisation de la production qui améliorera les capacités de suivi de la qualité, et non un gadget high-tech. Quant au confort de travail, il s'agit surtout de faciliter la gestion administrative de nos troupeaux, tant on est soumis à l'accumulation de réglementations et obligations, et ce sont celles-ci qui créent le besoin de passer à l'informatisation. De plus, ce confort est surtout celui des élevages en route pour devenir des sous-traitants de l'agro-industrie. Ces élevages saisiront l'opportunité du puçage, comme ils disent. Supporteront les coûts supplémentaires dus aux lecteurs, logiciels, portails automatiques. Ils pourront grossir grâce à moins de manutention, plus de fluidité du troupeau et d'automatisation de leur travail. Tri, peser, distribution de concentrés. Grâce au réseau informatique auquel l'animal est intégré via la puce, la connaissance individuelle d'une bête, naturelle dans les petits troupeaux, sera possible. Accès à ses généalogies, aux événements de sa vie, à ses performances. Certes, il n'est pas toujours facile à un éleveur de se soustraire à cette logique industrielle. Mais intégrer les discours des experts et être dupe de l'artificialisation amenée par la technologie donne la mesure de sa compromission. Il ne faut pas oublier que le puçage renforce l'idée et la faisabilité des contrôles. Comme les revenus agricoles ne permettent pas de se passer des primes, l'administration nous contrôle, nous dépossède de nos choix par ses envies normalisées. L'humain est alors considéré comme le point faible et suspecté et donc à surveiller. Dans ces perspectives-là, on imagine bien l'opportunité que sont les puces. Je terminerai par ce qui me paraît le plus important, le rapport à l'animal. Et ce rapport, qui est au cœur de notre métier, est remis en cause par le puçage. Ce métier ne deviendra pas plus confortable grâce au puçage, mais il se videra de son sens. L'animal ne sera plus lié à l'éleveur et sera réduit à sa fonction alimentaire. Quel intérêt y aura-t-il à être éleveur si nos pratiques nous sont toujours plus dictées et étroitement surveillées? Et si l'animal devient un produit manufacturé, niant son compagnonnage avec l'homme. C'est pour ça que j'ai décidé de me poser au puçage de mes bêtes, avec l'idée que rien n'est inéluctable. Ce qui a été fait peut être défait. Christine Foissac. Dans les livres d'histoire de l'école publique française, il était écrit que la mécanisation de l'agriculture avait libéré la main-d'œuvre des campagnes qui, en allant travailler à l'usine, avait permis la révolution industrielle. C'est sans doute ce goût prononcé pour la liberté qui a fait qu'aujourd'hui, à l'échelle française, la plupart des gens ne produisent pas leur propre nourriture. C'est sûrement ce penchant pour l'usine qui fait que 99% de la viande consommée dans ce pays est produite de façon industrielle. Par exemple, dans le cas des agneaux, pour chaque animal vendu, son engraissement nécessite en moyenne 60 kg d'aliments industriels à base de soja pour obtenir un poids moyen de 18 kg par carcasse. La généralisation de ce mode de production, qui nourrit tous les animaux avec les mêmes ingrédients, seule la formulation change un peu, aboutit à la monoculture de soja en Amérique latine sur 45 à 50 millions d'hectares. Nous, qui élevons des brebis et d'autres animaux, ne représentons plus que le centième en termes de quantité de viande produite sans confinement du bétail et recours à tous ces aliments plus ou moins nocifs pour la santé. Nous sommes encore là parce que par le passé, nous avons refusé de nous soumettre à des acheteurs qui, en tant qu'intermédiaires, exigeaient de nos animaux une conformation standard et donc une nourriture standard. La qualité, c'est la régularité, venait-il nous dire. Un produit conforme et régulier, ça se vend bien, rajoutait-il. Et il terminait en disant que la bonne camelote, c'est celle qui se vend bien. Puis ils remontaient dans leur bétaillère, et nous, on se débrouillait pour vendre nous-mêmes nos animaux. Aujourd'hui, ces maquignons ont presque tous disparu. Le marché, qu'ils avaient construit en l'approvisionnant, les a supprimés par ce mouvement de concentration qui ramène toujours la fortune vers ceux qui en possèdent le plus. Donc, nous sommes toujours là, et nous refusons de nous soumettre à une nouvelle exigence industrielle. Ce coup-ci, de tracer électroniquement la viande. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à vendre de la merde aux gens, mais pour les rassurer, on leur dit que c'est tracé, et donc que ça ne risque rien. Et par cette posture qui caractérise les puissants depuis toujours, ce qui vaut pour eux doit être appliqué à tous. C'est-à-dire que si l'industrie veut des puces, tout ce qui s'appelle viande doit porter des puces. Comme si tout ce qui n'est pas puissance et argent n'avait jamais rien valu et n'avait plus d'intérêt. Comme à l'époque coloniale, l'arrogance des dominants leur faisait appeler au oisiveté tout ce qui n'était pas travail et exploitation des gens et des choses. Et leur ôtait toute scrupule à s'accaparer le bien des indigènes en les jugeant incapables d'en profiter eux-mêmes. À ce point que quand les esclaves se soulevaient, les maîtres tentaient de les calmer en leur donnant un peu plus de pain et des couvertures, alors que cette dignité qu'ils avaient faim. C'est toujours cette suffisance qu'on affronte aujourd'hui. En plus moderne, bien sûr, rendu plus acceptable par les experts en com. Le mépris dédaigneux des autres s'est souvent changé en incompréhension polie, en malentendu préparé d'avance. Persister à refuser, c'est sûrement perdre des subventions. Mais c'est aussi affirmer que l'humiliation ne se compense pas avec de l'argent, qu'il est possible de gagner moins et de ne pas échanger que de la monnaie entre nous. Laurent Larmet. Parce qu'il n'est plus possible de subir sans rien dire cette avalanche d'obligations, d'interdictions, induites par l'industrialisation délirante de tout, tout en continuant d'aller aux brebis avec le sourire. Parce qu'il n'est pas envisageable de me taire, et pour tout le reste, je refuse de pucer mon troupeau. Nathalie Fernandez. Sur la traçabilité. Nous sommes pour que les gens sachent la vérité sur ce qu'ils mangent. On en a marre de voir sur les marchés ces saucisses et jambons de nos montagnes, vendus par de joviaux moustachus rondouillards à chapeau et petites nappes à carreaux. Médaille par-ci, label par-là, grand prix du festival de la qualité alimentaire. Tout ça pour un cochon qui est né en Hollande, a grandi au Danemark. Et est-ce qu'il est au moins mort par ici pour avoir tant de décorations? Il aura en tout cas passé sa courte vie à bouffer des saloperies vitaminées à base de soja brésilien OGM. Mais ça a créé des emplois, dans le transport et l'emballage surtout. Bon, si tout le monde veut des puces, on peut en mettre. Ça nous rabaissera juste un peu plus. De toute façon, on est presque au fond. Mais avec ça, seulement une petite condition. Dans un souci de cohérence sur la prévention des risques alimentaires, nous exigeons au préalable de la parfaite traçabilité de nos animaux, que soit démantelée toute installation nucléaire située à moins de 1000 km de tout élevage. Tant qu'on y est, la certitude qu'aucune eau ne subisse de pollution chimique. Dans l'attente, venez plus nous faire chier, bande de contrôleurs. Léon et Jeanne n'en peuvent plus.
California.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2, c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes, l'émission sur l'agriculture et les luttes paysannes. Donc on vient de s'écouter California Uber Alles de Dead Kennedys, et on va continuer à parler d'identification électronique des animaux dans l'élevage. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu plus en détail les contraintes que ça représente pour les paysans et les paysannes, et puis les enjeux de cette identification, et ce qui peut amener à vouloir y résister. Donc en fait déjà ça va être une augmentation de coûts pour les éleveurs et les éleveuses, étant donné qu'il faudra s'équiper de matériel qui va avec ces puces pour pouvoir les utiliser. Ça fait une surcharge de travail aussi, en ayant besoin de s'équiper de logiciels, il faut aussi se former à s'en servir. Donc voilà, une augmentation de tracasserie administrative et de gestion, de travail de gestion. Sur la question de la fiabilité, donc c'est avancé que c'est plus sûr, plus fiable parce que c'est plus technologique. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont déjà un peu démontré que cette fiabilité est largement remise en cause, étant donné que c'est des puces qui sont facilement destructibles. Ça se fait notamment déjà sur dans certains marchés noirs, par exemple de chiens, notamment dans certains pays où en fait des personnes bricolent des appareils qui sont, donc on pourra pas expliquer ça en détail, mais qui sont à fréquence plus haute ou avec un voltage plus haut, qui fait que ça permet de détruire la puce et donc toutes les données contenues dans la puce. Donc l'idée de réduire un supposé marché noir est quand même assez remise en cause. Et sur la question principale, donc de l'argument principal qui est avancé, de la traçabilité, du coup c'est effectivement, comme le disaient les témoignages, une idée de qualité derrière, de sécurité sanitaire. Et en fait c'est surtout là-dessus qu'il faut revenir, c'est que c'est la production industrielle de masse qui a vraiment besoin de cette traçabilité. Parce que, étant donné son système de production avec une segmentation très forte, une spécialisation très forte de chaque élément, et puis une production de masse très standardisée, que ce soit les animaux, les plantes, les procédés de transformation qui sont très très standardisés, le moindre petit problème sanitaire, il se change en catastrophe. Et on a pu le voir dernièrement avec la bactérie E. coli, et c'est pas le cas. Voilà, c'est dès qu'il y a une faille dans la machine, ça crée un énorme problème. Donc c'est cette production industrielle de masse qui a besoin d'une traçabilité pour remonter jusqu'à ces problèmes. Mais il y a des tas de paysans et de paysannes qui n'ont pas besoin de ça parce que ils ont une façon de travailler qui a rien à voir avec ce modèle-là, qui travaillent dans des rapports de confiance, que ce soit entre eux pour des échanges d'animaux par exemple, ou que ce soit avec les personnes qui consomment leurs produits, sur une relocalisation des échanges, que ce soit des échanges marchands entre guillemets ou des échanges sociaux. Il y a d'autres modèles qui existent de pratiquer l'agriculture que celui de la production industrielle. Donc il y a des tas de personnes qui n'ont absolument pas besoin de cette prétendue traçabilité parce qu'ils sont pas dans ce modèle là Et en fait, au final, c'est vraiment ce qui est en jeu là-dedans, c'est encore une dépossession de plus de l'activité paysanne, parce que on remplace la maîtrise par les éleveurs et les éleveuses eux-mêmes de leur choix de production, leur choix de transformation, tous leurs choix liés à leur activité. On remplace ça par des réglementations systématiques et qu'entraîne une gestion industrielle, une gestion fordiste des élevages, où en fait on a à un bout une matière première, des intrants qui arrivent, et à l'autre bout un produit qui ressort, et puis entre les deux on a simplement des opérateurs en fait. Et en fait dans ce contexte là l'activité paysanne a plus vraiment de sens. Et du coup, effectivement, cette gestion fordiste industrielle, elle peut avoir du sens pour des gros troupeaux qui sont déjà dans ce système-là. Voilà, pour gérer leurs rations, qu'on a un cheptel beaucoup trop important pour connaître leurs animaux, pour se rendre compte quand il y a des problèmes qui émergent. Mais il y a énormément de fermes qui sont à des échelles différentes et qui, sur plein de points, n'ont absolument pas besoin de ce qui est avancé par les promoteurs de cette puce RFID. Notamment, voilà, on le disait tout à l'heure, les portiques, il y a encore effectivement des bergers qui gardent leurs bêtes au champ. Donc avoir un portique pour savoir où elles vont quand ils sont avec elles, ça n'a pas vraiment de sens. Mais aussi justement sur il y a des gens qui travaillent pas avec des rations mais qui ont une autre approche de l'alimentation de leur troupeau, une autre approche de la santé de leur troupeau et qui travaillent sur des méthodes alternatives pour la santé de leurs animaux. Voilà, en fait, en gros, au final, ce qui s'oppose, c'est vraiment d'un côté des paysans et des paysannes qui ont une approche sensible de leur activité et qui évoluent avec leur troupeau et dans leur activité, et d'un autre on a vraiment ce projet d'administration industrielle des populations, donc ici des populations animales, en l'occurrence des petits ruminants, mais qui rejoint tout à fait le même projet d'administration des populations humaines avec d'autres éléments, d'autres choses qui utilisent ces puces RFID et l'émergence d'un contrôle social généralisé. Donc c'est le cas voilà, de ce que permettent les passes TCLI ou Navigo de gérer les flux de déplacement urbain. C'est aussi lié à tout un tas de projets technologiques actuels, que ce soit du côté de la biométrie, de la vidéosurveillance. Donc on va écouter maintenant un petit communiqué du collectif Faut pas pucer, donc un collectif qui s'est créé pour résister à l'identification électronique. Donc c'est un communiqué suite au témoignage qu'on a entendu tout à l'heure qui les soutient. Et puis ensuite on continuera à discuter de tout ça. Ces jours-ci, plusieurs éleveurs du sud-ouest de l'État français déclarent publiquement leur refus d'installer des nouvelles boucles d'identification électronique à l'oreille de leurs chèvres et de leurs brebis. Le groupe Faut pas pucer se déclare totalement solidaire de leur démarche et appelle les autres éleveurs à se soustraire aussi à l'obligation légale de pucer les animaux. Ceux qui manifestent ainsi leur désaccord avec la loi doivent s'attendre à des représailles financières, baisse des primes qui constituent une part importante de leurs revenus, et peut-être judiciaires, procès, s'ils persistent. Ils auront donc besoin de soutien matériel, moral et politique. Le plus grand service à leur rendre est d'ores et déjà de susciter, partout où cela semble possible, des débats sur les ravages de l'informatique dans la société, le travail, la vie personnelle. Par débat, nous entendons aussi bien la mise en discussion publique que le refus ferme des multiples contraintes bureaucratiques qui s'incarnent dans des dispositifs de haute technologie. Ici des puces RFID, là des logiciels, ailleurs des bornes biométriques. Dans notre bulletin de l'hiver 2011, les robots rêvent-ils de moutons électriques? Nous disions, un troupeau équipé de puces électroniques, c'est un troupeau qui sera géré par ordinateur. Or, on ne devient pas berger ou éleveur pour travailler derrière un écran, ni poursuivre les procédures standards concoctées par de prétendus experts. Du moins, si l'on pense qu'un élevage, ce n'est pas une usine à viande destinée à produire toujours plus et plus vite. Ce problème ne concerne pas uniquement les éleveurs. Un peu partout, sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, on automatise pour gérer la masse au détriment du soin et de l'attention. Dans des maternités, on équipe les nouveau-nés de bracelets électroniques dotés de ces mêmes puces. Dans certains établissements scolaires, les élèves munis de leur carte sans contact sont bipés à l'entrée et à la sortie, le logiciel de vie scolaire envoyant automatiquement des alertes aux parents par SMS. De ces innovations, qui visent à faire moderne et à réaliser des gains de productivité, les activités sortent appauvries, dénaturées. Et ceux qui les exercent sont plus étroitement contrôlés, leurs compétences dénigrées. Jusqu'au jour où l'on se retrouve à dire au client, à l'élève, à l'administré, au patient, à la brebis, rayez la mention inutile, « Je suis désolé, mais l'ordinateur ne veut pas. » À cela, nous répondons, « Je suis désolé, mais je ne veux pas l'ordinateur. » À cela, nous ajoutons aujourd'hui, « Désolé, mais nous ne voulons pas de la traçabilité de tout et de tous comme remède aux pathologies d'une organisation sociale démesurée. Nous rejetons la production de masse, qu'il s'agisse de nourriture ou des multiples faux besoins que le capitalisme industriel a créés. »
S'il est impossible de garantir que la nourriture produite sur le marché mondial ne soit pas du poison, c'est le marché mondial qu'il faut remettre en cause, et non les quelques pratiques agricoles qui restent jusqu'ici étrangères à la logique industrielle. S'il paraît impossible d'avoir confiance dans ce que produisent quelques 900 000 agriculteurs, un peu plus de 3% de la population active en France, nous ne pensons pas qu'il faille contrôler plus étroitement ces 3%, mais plutôt qu'une société où si peu de gens s'occupent de produire la nourriture, à commencer par la leur, ne tient pas debout, et qu'elle appelle une remise en question radicale. Bien sûr, il est délicat de transgresser les réglementations édictées par des bureaucraties dont nous sommes profondément dépendants, d'un point de vue matériel. Mais c'est également cette question de la dépendance qui nous intéresse, dans l'affaire du puçage. En Occident, de nos jours, nous sommes tous des assistés. Du patron de PME au bénéficiaire du RSA, de l'agriculteur au cadre dynamique, du fonctionnaire à l'artiste subventionné. Que l'on soit drogué au travail ou pas, notre mode de vie, basé sur la monétarisation de tout, les télécommunications à haut débit, l'énergie illimitée et l'État omniprésent, est lui-même une forme d'assistanat généralisé. Nous ne voyons pas quelle dignité et quelle liberté sont compatibles avec cela. À l'heure où la catastrophe nucléaire en cours illustre la folie du développement industriel, nous pensons qu'il est important de rejeter avec toute la fermeté possible l'embrigadement électronique et le gouvernement des experts. Nous encourageons toutes les personnes qui se sentent concernées par ce rejet à diffuser largement cet appel, ainsi que les déclarations d'éleveurs refusant de pucer leurs bêtes. Les personnes qui s'engagent dans une telle démarche ne doivent pas rester seules face à l'administration et aux risques qu'elles encourent. Le refus de pucer implique l'organisation d'une solidarité, et d'abord d'une solidarité de proximité, entre éleveurs et avec d'autres personnes de leur voisinage. Au-delà de ce niveau local, c'est la dynamique nationale de cette campagne qui indiquera l'opportunité et le moment pour les refuseurs de se rencontrer afin d'élaborer des perspectives de lutte plus précises. Avril 2011, le groupe Faut pas pucer.
It seemed like everyone I knew was dying. I looked in the mirror and I was on fire. Somebody yelled out, hey, stop, drop and roll. I said that might save my skin, but it won't save my soul. That might save my skin, but it won't save my soul. He's protecting us, but he's a liar. And I know deep down that it's down to the wire. My heart will stop if I put out the fire. As long as I'm burning, I'll keep on yearning to save the world. Not sure how, but I'm learning. Since what they call the beginning of man, blood has been shed for the rape of the land. They call it civilized, I call it crap. Our only hope is to look further back. Our only hope is to look further back. If we really want for this world to survive, we'll just take what we need to stay alive. It's a mistake to just take and not give. It's not true that we must murder to live. It's not true that we must murder to live. He says he's protecting us, but he's a liar. And I know deep down that it's down to the wire. My heart will stop if I put out the fire. As long as I'm burning, I'll keep on yearning. To save the world, not sure how, but I'm learning.
Vous êtes toujours sur Radio Canu sur le 102.2. On vient de s'écouter Kimia Dawson avec le morceau Fire. Et c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes, l'émission sur l'agriculture et la lutte paysanne. On continue à parler d'identification électronique des animaux. Voilà, donc au-delà de toutes les raisons qu'on vient d'entendre pour résister à l'identification électronique obligatoire des petits ruminants, c'est une contrainte administrative en fait qui arrive à un moment où les éleveurs et éleveuses sont déjà dans une situation très difficile, notamment dans la production ovine. Il y a des baisses de revenus très très importantes et systématiques depuis plusieurs années. À un point que dans beaucoup d'élevages, en fait, les primes européennes, donc les primes PAC, sont supérieures aux revenus nets des exploitations. Donc les éleveurs travaillent pour payer leurs charges. Et c'est un moment aussi où ce genre de contraintes administratives se multiplient. Sur ces dernières années, il y a eu beaucoup de restrictions sur les normes de transformation, notamment de transformation du lait, de transformation fromagère, mais aussi de restrictions qui ont entraîné la fermeture d'abattoirs de proximité et la concentration des transformations de viande dans des abattoirs de plus en plus grands, de plus en plus éloignés des zones d'élevage, ce qui entraîne des circulations des transports de bétail importants, et puis des chaînes de transformation de plus en plus grosses, donc avec, comme on le disait tout à l'heure, de plus en plus de risques sanitaires. Il y a eu aussi des restrictions sur la transhumance, et il y a eu dernier épisode en date, la fièvre catarrhale ovine et l'obligation de vacciner contre cette maladie qui n'est pas contagieuse. Donc ça, on en parlera, on fera une émission là-dessus. Et cette vaccination systématique qui a eu de lourdes conséquences sur les bêtes et qui a vu certains élevages obligés de mettre la clé sous la porte suite à ça. Et du coup, le prochain élément en date après l'identification électronique, c'est la certification obligatoire, donc en 2015 pour les petits ruminants, de ce que l'État appelle le matériel génétique mâle. C'est-à-dire qu'en fait, tout bélier, pour prendre l'exemple ovin, bélier ou semences, devront être certifiés suivant certains critères. Donc quand on voit, en fait, ça existe déjà dans le végétal, et on a très clairement vu sur ces dernières décennies que ça a entraîné une standardisation énorme des plantes cultivées, et puis un accaparement des semences aux mains des industriels. Du coup, on va écouter un extrait d'un article qui est paru dans le bulletin de la Confédération paysanne de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui parle un peu justement du lien entre ces différentes restrictions administratives, que ce soit autour de la fièvre catarrhale ovine, de l'identification électronique ou de la certification des mâles. Entrée en vigueur en France au 1er juillet 2010, l'obligation concerne pour l'instant les animaux nés dans l'année. En 2013, elle concernera tout le troupeau, et donc la pression sera encore plus forte. Les éleveurs pourraient se voir refuser leurs animaux en abattoir. Et la principale menace pèse sur les aides européennes, conditionnées à l'application de la traçabilité électronique. La Confédération paysanne, sans s'opposer à toute forme d'identification, s'est positionnée à plusieurs reprises contre cette mesure excessive et inutile, permettant de subventionner l'industrie à travers des éleveurs, sans pour autant répondre aux crises sanitaires comme au marasme chronique de l'élevage ovin. Depuis la mise en place de cette obligation, des collectifs se créent, à l'instar des collectifs contre la fièvre catarrhale ovine, rassemblant des éleveurs de toute sensibilité pour s'entraider et informer les consommateurs. En PACA, 400 lettres de refus d'obligation étaient signées par les éleveurs et portées à la préfecture de Digne. Ainsi, à l'heure où l'État suspend l'obligation vaccinale contre la FCO, l'étau se resserre à nouveau autour des éleveurs qui se voient dépossédés de leur autonomie et de leur savoir-faire. Pour la vaccination comme pour l'identification électronique, la Confédération paysanne s'oppose au caractère obligatoire du dispositif. L'obligation retire à l'éleveur la liberté de choisir lui-même les moyens qu'il considère comme propres à répondre à un problème sanitaire, maladie ou d'élevage, identification et suivi des animaux, en dehors de toute nécessité impérative. La superstructure administrative sanitaire qui a dirigé cette affaire, au mépris de toute prudence, allant au-delà des préconisations des laboratoires en laissant certains vétérinaires vacciner à l'abattage et faire du chiffre, peut se prévaloir des dégâts conséquents dans l'élevage français. Cette campagne de vaccination FCO aura permis à beaucoup d'éleveurs de comprendre qu'on peut de moins en moins prendre au sérieux l'État en matière sanitaire, incapable qu'il ait d'admettre la diversité et la complémentarité des pratiques. En attendant, les juges de proximité comme ceux des tribunaux administratifs nous donnent raison avec une constance qui constitue la meilleure jurisprudence. Nous en sommes à des dizaines et des dizaines d'éleveurs cités et tous relaxés ou dispensés de peine, même si certains procureurs poussent la mascarade jusqu'à faire appel. Enfin, poussant toujours plus loin la logique du contrôle, la certification des mâles ruminants, déjà inscrite dans le code rural, sera applicable à partir de 2015 pour tous les mâles reproducteurs. Cette mesure entraînera une déperdition probable et rapide de la biodiversité animale au profit de quelques opérateurs économiques en maintenant les éleveurs dans l'assujettissement aux instituts scientifiques et aux centres de sélection. Face à cette vision technique et normalisée de l'élevage, qui a démontré son inefficacité, les modes d'élevage autonomes ont leur raison d'être économiquement et socialement. Nombreux sont les éleveurs qui font des choix d'élevage leur permettant de vivre avec leurs animaux, d'utiliser des façons complémentaires des pâturages, transhumance hivernale et estivale, avec le souhait d'être utile au maintien de paysages ouverts, lutte contre les incendies et la fermeture des milieux. Ils s'inscrivent ainsi dans une démarche d'intérêt collectif, contrat de pâturage avec des communes, des collectivités, et privilégient les échanges au sein du territoire. Antoine de Ruffray, éleveur ovin aliment. Donc voilà, c'est bientôt la fin de l'émission. On va simplement citer quelques références pour aller plus loin sur le sujet.
Donc voilà, quelques références là-dessus. Bah, d'abord, format papier, ce que vous pouvez retrouver, c'est la revue Z qui a consacré son premier numéro, donc qui est une revue de critique sociale itinérante. Donc son premier numéro était dans le Tarn. Et il y a un dossier consacré justement à l'identification électronique avec des entretiens et des discussions avec des éleveurs et éleveuses. Ensuite, il y a un livre qui va paraître normalement dans l'automne aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances qui s'appelle « Surveiller et guérir les moutons » qui est écrit par René Rizel et peut-être d'autres personnes. Donc voilà, ça devrait sortir dans l'automne. Sinon, il y a sur la technologie RFID en elle-même, vous pouvez retrouver sur internet ou en DVD un film du collectif Pièces et Main d'œuvre qui s'appelle RFID, la police totale. Et il y a un livre donc qui a le même nom, qui a été écrit aussi par ce collectif. Après, pour retrouver pas mal d'infos sur le puçage, il y a un site internet qui s'appelle contrelepuçage.free.fr. Où voilà, ça rassemble plein d'infos sur la résistance au puçage dans l'élevage. Voilà à peu près pour les références. Sinon, on va passer brièvement, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, à l'agenda. Donc l'agenda, quelques actualités. Déjà jeudi prochain, donc le 20 octobre, à Genève, devant le siège de l'UPOV. Donc l'UPOV, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Donc c'est en fait une organisation, un traité international qui s'occupe des certificats d'obtention végétale qui sont l'équivalent en Europe des brevets, mais sur le matériel vivant entre guillemets, donc sur les plantes principalement. Et du coup il y a un rassemblement de 12h à 14h à l'appel de la coordination européenne de la Via Campesina, qui est une organisation paysanne, voilà, donc rassemblement pour défendre le droit des paysans et des paysannes à l'accès à leurs semences. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir sur unitaire.ch, donc c'est un syndicat paysan suisse qui s'appelle Unitaire. Ensuite, des autres infos dans l'agenda, il y a les rencontres francophones de Reclaim the Field qui auront lieu du 28 octobre au 1er novembre dans le Trièves à Kraken, donc dans le Trièves, dans le sud de l'Isère. Donc c'est sur 4 jours, du 28 au 1er novembre. On n'a pas forcément le temps de lire leur appel, mais vous pouvez le retrouver sur leur site, donc reclaimthefield.org. Et puis vous pouvez aussi écrire pour vous inscrire à une adresse que je retrouve plus, c'est rencontre au pluriel -rtf@riseup.net. Voilà, et donc au programme, il y aura tout un tas de discussions sur l'héritage des luttes paysannes, sur les actions actuelles du réseau Reclaim the Field, de partage d'expériences, d'auto-formation, sur les questions de réoccupation de Notre-Dame-des-Landes, en cas d'expulsion. Il y aura des concerts le samedi soir de Mélancolia Anonyme et de La Peau et les Os. Il y aura aussi des discussions de fond sur la question animale, sur les constructions de genre dans le milieu agricole, sur le puçage des bêtes aussi. Voilà, plus des projections de films. Donc vous pouvez retrouver le programme en les contactant directement. Sinon, s'il nous reste un petit peu de temps, deux, trois autres petites infos. Il y a le recensement agricole qui vient de tomber et qui, entre autres, dit que les petites et moyennes fermes sont en baisse en termes de nombre en France, mais les grandes exploitations, non, donc il y en a toujours autant. Selon la direction départementale du territoire de Mayenne, ça signifie que les grandes fermes résistent à la crise. Voilà, donc comme le répondait la conf de Mayenne, c'est plutôt que les grandes récupèrent l'outil de production des petites qui arrêtent et concentrent l'outil de production. Donc on pourrait aussi ajouter qu'ils le concentrent en attendant d'arrêter à leur tour. Voilà pour ça, et sinon une info de dernière minute, à Notre-Dame-des-Landes, donc on en parlait il y a 15 jours, il se passe toujours un peu des choses. Et là, aux dernières nouvelles, mardi 11 octobre, il y a eu des huissiers qui sont venus pour des fouilles préventives archéologiques en préparation des forages pour le chantier de l'aéroport. Du coup, il y a un petit témoignage d'un paysan de là-bas qui était sur place. Donc il dit qu'après une nuit passée à la Belle Étoile dans un pré, une cinquantaine de résistantes et résistants avec 15 tracteurs ont accueilli un huissier, un technicien de la chambre d'agriculture, et donc avec eux, avec les résistants et résistantes, il y avait le propriétaire de la parcelle, le maire de la commune et le fermier de la parcelle, qui ont tous refusé de signer l'autorisation de fouille. Donc l'huissier est reparti bredouille et les gens sont repartis rejoindre les 150 opposants qui était devant la mairie de Notre-Dame-des-Landes pour accueillir les commissaires enquêteurs qui continuent des enquêtes publiques sur des parcelles pour le chantier. Et donc il y a des gardes mobiles qui ont été surpris par cette présence en masse de tracteurs